Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode du podcast. Écoutez, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me fascine depuis des années, c'est-à-dire ces gens qui se réalisent ou qui connaissent le succès, disons, peut-être un peu plus tard. Puis quand je dis connaître le succès, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas connu du succès avant, mais ce n'était peut-être pas nécessairement dans la voie qu'ils avaient choisie, leur cœur avait choisi au départ. Ils ont peut-être comme vous, peut-être même comme moi, fait un choix rationnel à un moment donné pour un choix alimentaire qu'on appelle, c'est-à-dire pour payer les comptes et puis en fait là, commencer sa vie en tant que jeune adulte là, quand on quitte le nid familial après les études ou quoi que ce soit, puis on se trouve un job qui va finir par payer les comptes et tout ça, mais qui n'a jamais vraiment peut-être donné un ou procurer un profond sentiment de satisfaction personnelle, ce sentiment de sentir qu'on était vraiment à la bonne place, dans la bonne chaise, qu'on était, comme on dit, sur notre X, etc. Donc, je vous dirais que aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette étude, ou je pourrais dire ces recherches-là que j'ai faites sur le sujet, en plus d'avoir toujours vu des noms passer, comme tout le monde, de gens qui ont réalisé des grandes choses, puis les choses qui leur ressemblaient le plus, en fait, au niveau de leur nature, de leur essence, de leur âme profonde, un peu plus sur le tard. Je pense, entre autres, je sais pas s'il y en a qui l'ont connu. Moi, je l'ai connu simplement parce qu'il y avait un film que Meryl Streep avait incarné le rôle de Julia Child. C'était une figure très populaire dans les années 70, les années 60, même je pense que ça avait commencé, tout ça, cette aventure-là. Puis cette dame-là avait, dans la cinquantaine, quand elle a comme explosé, comme cuisinière, comme chef à la télé, en fait, à faire des recettes, etc. Donc, on est encore très friand de ce sujet-là aujourd'hui, mais à un autre niveau. Là, aujourd'hui, c'est sportif. Il y a des compétitions et tout ça là, à la télé. Mais tout ça pour vous dire que il y a pas seulement Julia Child. Il y a eu justement Denis Arcand, qui est notre cinéaste chouchou ici au Québec, puis même évidemment connu en France, donc en Europe, avec ses films comme Le déclin de l'Empire américain, Les inventions barbares, etc., Jésus de Montréal, où il a carrément là, fait exploser les chiffres au niveau non seulement de coups de cœur pour des films qui sont encore aujourd'hui, qui sont très révélateurs de notre société ici québécoise, puis aussi en fait presque même large, comme on dit, donc à travers le monde, parce que ce sont des thèmes qui sont bien souvent qui sont évoqués par Denis Arcand, qui sont totalement universels. Donc, on a quelqu'un qui a été étiqueté de loser, de perdant par ses proches, par sa famille. Imaginez, là, à l'âge de 40 quelques années, il n'avait pas encore nécessairement produit de films ni de films à succès, donc évidemment, puis sa carrière, ça se limitait plus ou moins à enseigner, puis il n'y avait pas ça enseigner en plus, donc imaginez là, cette situation-là. Moi je me souviens où j'étais à l'âge de 23 ans, j'ai vu un conférencier pour la première fois, puis j'ai dit ça y est, puis j'étais vraiment malheureux où j'étais parce que j'avais choisi la carrière que mon père voulait que je choisisse, c'est-à-dire de comptable, puis bon, finalement, je m'étais un peu rallié un petit peu à quelque chose un peu plus près de moi, le marketing, puis j'étais avec des gens de vente, etc., donc c'était très formateur pour moi pour pouvoir aujourd'hui vendre mes produits et services depuis des années, mais il en demeure pas moins que de 23 à 29 ans, où j'ai vraiment, vraiment fait le premier pas vers la direction que mon cœur me dictait depuis des années, c'est-à-dire de devenir conférencier, eh bien, ces 6 années-là, c'était pas nécessairement jojo, c'était pas des années très heureuses, mais par contre, en bout de ligne, je savais c'était quoi ma vraie nature. La question, c'est est-ce que j'avais le courage, est-ce que j'avais la persévérance, est-ce que j'avais les moyens aussi, entre guillemets, financiers, entre autres, pour pouvoir me supporter dans mon développement, parce qu'évidemment, quand on est à l'école, l'école avec des guillemets, là, quand on est en train d'apprendre ou on veut apprendre une nouvelle activité, un nouveau métier, bien évidemment, c'est pas pendant ce temps-là qu'on peut aller chercher tous nos revenus. Donc, il y avait toutes ces questions-là, puis c'est probablement des questions que vous vous posez vous-même, à savoir, oui, j'ai une belle carrière, oui, je suis contente de ce que j'ai fait, mais je sens que ma vraie nature n'a pas été encore vraiment nécessairement exploitée, ou tout simplement, ça fait longtemps que je le sais, que je suis là-dedans, et puis je n'ai pas encore débloqué. Alors, dans les deux cas, évidemment, premier mot, c'est n'abandonnez jamais, ça c'est certain. Et puis, je vais vous donner d'autres exemples. Simon Cowell, qui est milliardaire aujourd'hui, écoutez, là, c'est 100 millions, je pense, de 100 millions d'euros comme revenu, salaire qui se donne chaque année parce qu'il est propriétaire des marques American Idol, America's Got Talent, pardon, et toute la série, le mondial, là-dessus, a commencé à 43 ans. Donc, je sais que peut-être que 43 ans, c'est quelque chose qui est derrière vous, mais écoutez, Julia Child, comme je vous ai dit, 50 ans. Yannick Fournier, qui a fait Canada's Got Talent en tant que chanteuse, en 2019, je pense, elle avait 47 ans. Puis aujourd'hui, on voit les affiches là, sur les autobus ici autour de Montréal puis à travers le Québec là, pour ses spectacles. Et puis quand on lui avait demandé en entrevue, je me souviens récemment, on lui a dit, ben écoutez, vous savez, vous avez commencé fin quarantaine et là, vous êtes dans la cinquantaine, etc. Qu'est-ce qui explique que vous n'avez pas commencé plus tôt? Parce que souvent, vous savez, les chanteurs, chanteuses, musiciens, ça commence, habituellement, ils se réalisent dans ce domaine-là un peu plus tôt, puis même c'est après qu'ils vont faire autre chose. Elle a dit, ben mon temps, c'est maintenant. Et alors, c'était pas plus compliqué que ça. Puis des fois, c'est juste pas plus compliqué que ça. C'est plus parce que, justement, notre temps, c'est pas maintenant, c'est au moment où ce sera le temps. Et là-dessus, les études, justement, que j'ai lues sur le sujet, là, il y a des gens qui se sont penchés sur cette question-là d'une façon beaucoup plus, disons, théorique et intellectuelle. Puis je ne veux pas vous embêter avec trop de détails, mais écoutez, on pose la question, est-ce que c'est une question de génie de se réaliser plus tôt dans notre vie? Et qu'est-ce qui explique, dans le fond, finalement, ou comment on pourrait appeler quelqu'un qui va se réaliser sur le tard? Maître? Est-ce que c'est une question de jeune génie contre vieux maître? Et la question, c'est James Kaufman, un chercheur sur la créativité, qui s'est penché sur cette question-là. Puis il y a même, vous savez, le fameux livre « Flow » qui a été publié dans les années 90, qui encore, on en entend parler, puis je l'évoque aussi à l'occasion, quand on est dans le « flow », quand on est dans la zone, quand on est vraiment dans cet espace-là où est-ce que la concentration, c'est vraiment pas un problème, où est-ce que les choses viennent de façon naturelle. On parle justement de jeune génie, Orson Welles, son fameux chef-d'œuvre, Citizen Kane, il l'a produit, il l'a écrit, il l'a réalisé à l'âge de 25 ans. Mozart, c'est à 21 ans que son fameux concerto pour piano numéro 9 a chaviré le monde de la musique à son époque. Picasso, c'est à 20 ans qu'il a créé la plus grande œuvre de toutes ses œuvres. Puis Picasso, c'est l'artiste le plus prolifique que la Terre n'a jamais connu, l'artiste peintre. Et c'est à 20 ans qu'il a créé son fameux chef-d'œuvre « Évocation de Casagemas ». John Keats, moi, j'ai commencé à découvrir des poètes américains, britanniques et d'autres, là, comme Rumi, afghan, c'est-à-dire perse. Mais c'était l'Afghanistan, c'est l'Afghanistan d'aujourd'hui à l'époque où, en fait, tout ça pour vous dire que c'est une question de territoire qui a changé, mais on dit que Rumi, c'est un poète perse qui écrivait 12 poèmes par jour pendant 12 ans. Alors ça vous donne une idée, puis ça c'était quand il était jeune. Mais pour revenir à mon John Keats, c'est un poète britannique qui est décédé à 25 ans. Et on parle encore de lui, justement, entre autres, une de ses écrits qui m'ont touché le plus, puis ça, je l'ai découvert grâce à Windhoek, qui disait « Beauty is truth, truth is beauty ». Donc, la beauté, c'est la vérité c'est la beauté. Puis moi, Aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, dans la beauté, il y a beaucoup de choses qui reviennent et qui sont enseignées aussi par d'autres personnes, entre autres. Logothérapie de Dr. Viktor Frankl, qui essayait dans les camps de concentration de retrouver la beauté un peu partout. Donc, c'est vraiment une façon non seulement de se réaliser, mais aussi de grandir. Parenthèse fermée, il y a un monsieur du nom de James Gallinson qui a fait aussi ces fameuses études-là sur, la question de est-ce que c'est une question d'être un maître quand on se réalise plus tard, est-ce une question d'être génie quand on se réalise plus jeune. Et puis, il s'est rendu compte que, dans le fond, il y avait une différence entre ceux qui étaient, comme Picasso, qui voulaient chercher, qui voulaient trouver. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'il voulait trouver dans son activité de peindre, qui le motivait, c'était trouver, alors que, par exemple, Cézanne, qui, lui, a réalisé ses plus grandes œuvres, qui se sont vendues 4 fois plus que celles qu'il a fait quand il était plus jeune, sont vendues dans la soixantaine. Il y avait dans la soixantaine, on se rend compte que Cézanne, lui, c'était chercher. Donc, c'était une façon, peut-être, de laisser fermenter ses talents. Il y avait peut-être... C'est pas... Écoutez, on pourrait dire, bon, il y en a un qui avait plus de profondeur que l'autre. C'est certain, à 20 ans, c'est pas comme à 60 ans, mais moi, je connais des gens de 60 ans qui n'ont pas de profondeur du tout, donc c'est pas nécessairement ça. Mais ici, on se rend compte que dans le processus des late bloomers, il y a des traits qui ressortent, puis entre autres, il y a cette question-là, justement, de... C'était pas le temps. C'était juste pas le temps. Un écrivain qui, on pourrait dire aujourd'hui, c'est un écrivain à succès, puis Ben Fountain, qui a vendu maintenant des millions de livres, mais qui, pendant des années, c'était à la fin de la quarantaine là, que ça a commencé à débloquer. Son épouse le supportait moralement, le supportait financièrement aussi. Donc ça, c'est un des traits des late bloomers, c'est qu'ils ont souvent une aide, une personne. Parfois, c'est d'une personne qui va justement être comme un mentor ou une mentor ou même un mécène. Donc, au niveau financier, vous le savez, on en a parlé un petit peu au début, la question de, bon, ce serait peut-être le temps maintenant, mais je ne peux pas financièrement, je veux dire, il faut que je fasse, évidemment, je paye les comptes, fasse vivre ma famille, etc. Donc, il y a toutes sortes de raisons pourquoi on devient un late bloomer. Mais ce qui est important, c'est de se rendre là si jamais c'est important pour nous d'aller au fond de notre essence. Et Ben Fountain avait aussi le support, donc je disais moral et financier, de sa femme, mais qui ne l'a jamais critiqué, qui n'avait jamais fait sentir mal, évidemment, d'être dans cette position-là. Elle a toujours laissé prendre ses décisions quand il y avait un manuscrit qui était retourné d'un éditeur, quoi que ce soit. Donc, c'était encore, comme je disais, un critère des gens qui vont se réaliser peut-être plus tard, mais des fois, c'est peut-être une multitude de personnes. C'est pas toujours seulement une personne. Comme moi, dans mon cas, je sais que j'ai pas eu ce grand sage-là qui s'est mis sur ma route puis qui m'a pris par la main comme j'aurais bien voulu. Bien sûr, que ce soit plus facile, hein, d'un passage, ben, j'ai appris par moi-même, mais grâce aussi à des anges, on pourrait dire, sur mon chemin qui se sont placés pour m'aider justement à aller à la prochaine étape puis d'avoir un nouveau projet, etc., puis de continuer d'avancer. Donc, il y a des critères comme ça qui reviennent chez les bloomers, les fameux gens qui se réalisent plus tard. Et là-dessus, moi, je vous dirais que, en bout de ligne, ce qui est le plus important, c'est que peu importe votre scénario, votre portrait, le portrait de la situation pour vous, la raison pourquoi vous êtes dans la cinquantaine ou soixantaine, puis vous sentez que, bon, c'est pas tout à fait ce que vous vouliez, puis il y a toutes sortes de raisons pour expliquer ça des fois, c'est jamais trop tard. C'est certain, c'est facile à dire qu'il n'est jamais trop tard, mais en fait, si on était... on voulait devenir un athlète professionnel, mais ça, il y a des choses qui font juste pas de sens. Hein. On s'entend, là, je peux pas devenir quart arrière d'une équipe de la Ligue nationale de football ou canadienne du jour au lendemain dans la cinquantaine. C'est quelque chose qui est juste pas possible. Mais quand c'est possible, ça semble peut-être loin ou ça semble encore peut-être inatteignable, chose certaine, c'est moi, je sais que je m'inspire souvent des gens qui ont réussi comme ça sur le temps. J'en ai mentionné quelques-uns, je peux vous en donner d'autres. Sam Walton, 44 ans. Henry Ford, 45 ans. Ray Kroc, la chaîne de restaurants McDonald's, 52 ans. Ian Fleming, le créateur de James Bond, 44 ans, son premier film. Nelson Mandela, bon, bien sûr, il était président à l'âge de, le premier état, chef d'État noir de l'Afrique du Sud à 76 ans. Écoutez, des histoires comme ça, Charles Darwin, qu'on lit encore, qu'on écoute, qu'on évoque encore aujourd'hui, le darwinisme, 50 ans. Alors, écoutez, moi, je vais vous laisser avec ces noms-là, mais aussi avec une ressource additionnelle, si ça vous intéresse, d'aller sur ma chaîne YouTube, Marc-André Morel, sur YouTube, trouver sa voix sur le tard, une vidéo que j'ai faite il y a quelques années, qui peut-être justement pourrait avoir des éléments là-dedans qui pourraient vous inspirer. Trouver sa voix sur le tard, vous pouvez le retrouver aussi dans en format podcast, là, si je me souviens bien, je pense que vraiment je l'ai fait en format aussi audio, donc sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast, etc. Donc, je vous invite, écoutez, à garder votre secret peut-être pour vous, à ne communiquer votre projet, votre intention, vos ambitions à une ou deux personnes vraiment qui ne va pas vous juger, qui va pas vous dire « ben voyons donc franchement ton âge ou quoi que ce soit ». Donc, écoutez, vous pensez que vous pouvez prévoir qui va vous dire ça, mais vous seriez surpris à quel point ça peut être des gens qui sont les plus près de vous, qui soi-disant vous aiment le plus, puis c'est vrai que l'amour n'a rien à voir avec ça. Mais par contre, chacun a ses schèmes de pensée, puis je pense que ça vaut la peine que vous gardiez ça pour vous. Vous trouvez peut-être un ou une mentor, un ou une coach, quoi que ce soit, pour peut-être vous aider à cheminer là-dedans. Et je sais que tout n'est pas terminé. En tout cas, moi, je peux vous dire que fin cinquantaine, j'ai encore le feu. J'ai le feu dans le ventre. Je vous dirais que j'ai même pas la satisfaction que d'autres me donnent par rapport à ma carrière de conférencier. Ça, c'est sans compter, bien sûr, les autres projets que j'ai, de faire un film documentaire, d'écrire un scénario de film hollywoodien. J'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, et c'est pas fini. J'ai vraiment l'impression que ça fait juste commencer. Alors, je vous dis salut, puis à la semaine prochaine.